c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, en el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler du Chili, et ensuite de Venezuela, de la France, Argentine aussi, du Mexique. Et si le temps nous permet, nous allons parler un peu de littérature. Il y a 51 ans, nous nous sommes réveillé sous une dictature. Et oui, nous allons nous rappeler ce coup d'État le 11 septembre 1973. C'était donc à Santiago du Chili et c'est une tragédie. Je laisse la parole à Béatrix.
Oui, c'est un extrait de ce que a écrit Pierre Calfon, universitaire et diplomate, qui était correspondant au Chili, du journal Le Monde de 69 à 1973. De 1970 à 73, pendant 3 ans, Le Monde a eu les regards fixés sur le lointain Chili, une expérience déroulée au bout de l'Amérique latine. Pour la première fois, en effet, un chef d'État régulièrement élu à la loyale, Salvador Allende, tentait une révolution dans la légalité. Son projet de mener le pays vers le socialisme reposait non pas sur les fusils, mais sur les seules armes démocratiques de l'appareil légal en place. Marx n'avait pas prévu ce cas inédit. S'il réussissait, l'exemple chilien risquait de faire tache d'huile, de servir de modèle. Trop dangereux pour les États-Unis, craignant la contagion d'un deuxième Cuba, dans l'hémisphère nord-américain, considéré comme chasse gardée. Avec ténacité, Washington organisera contre le Chili un blocus financier et économique, appuyant considérablement les forces de droite jusqu'au coup d'État brutal du général Pinochet le 11 septembre 1973. Quand les soldats de la junte organisent des autodafés dans les rues, ils croient débarrasser le pays de sa mémoire. Erreur. Enfoui pendant des années, traumatisé par la répression, cette mémoire ressurgit chaque année, réclamée par de nouvelles générations.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 dans n'importe quel quartier d'une lune perdue. Même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée?
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous avons un témoignage d'Alain Touraine au sujet de ce coup d'État en 1973. Donc, il nous a même dédicacé son livre qui s'appelle Vie et mort du Chili populaire. Et il a écrit: Comme recuerdo de un Chile todavía demasiado presente. Parce que Alain Touraine a été marié avec une femme chilienne. Voilà. Donc, je laisse la parole à Béatrice. Témoignage d'Alain Touraine, qui a été au Chili au moment du coup d'État.
Qui est un sociologue. Alors, le coup d'État et les luttes qui l'ont suivi ont fait peu de victimes. La répression en fait beaucoup. Les témoignages ne laissent plus de doute. On fusille souvent et beaucoup. Le soir surtout, au Stade National. Les dirigeants politiques en fuite sont recherchés, des récompenses sont promises à ceux qui les dénonceront. L'horreur dépasse l'attente. Même au lendemain du coup d'État, on n'aurait pas osé prévoir que le Chili serait quelques jours plus tard enfermé dans une prison aussi sinistre. La bourgeoisie fête la fin du marché noir qui n'a plus de raison d'être puisque l'argent a confiance dans la mitraillette pour écarter le péril rouge. Il faut maintenant écouter la voix de l'ombre, aimer l'immense travail de résistance et de réflexion que va faire ce peuple écrasé, encore abasourdi par la violence du coup, mais qui retrouvera le courage de lutter. La répression sera terrible. Le Chili va vivre une longue souffrance parce qu'il est le plus violemment frappé. Le Chili devient le centre des luttes de tout un continent. Il faut partir, je ne peux plus rien faire ici, aurait dit donc Alain Touraine. Un monde et un espoir se sont écroulés. Il faut penser à la lutte qui commence, à l'effort d'un peuple pour retrouver la liberté.
Diseminado. no volverás del fondo de las rocas,
no volverás
del tiempo subterráneo,
no volverás
tu voz endurecida,
no volverán
tus ojos taladrados.
Sube a nacer contigo, hermano.
Sube a vivir conmigo, hermano. C'est une chanson tirée d'un poème de Pablo Neruda, que nous allons parler dans une prochaine émission. Parce que le mois de septembre au Chili, se sont passées beaucoup de choses. Mais nous allons partir dans un pays où il y a des problèmes, un président qui devient presque un dictateur, où nous allons parler de Venezuela.
Oui, c'est un extrait d'un article paru dans Challenge. L'Occident reste désarmé face à Nicolas Maduro, malgré une opposition vénézuélienne déterminée à contester le scrutin présidentiel et une dure répression du régime. La communauté internationale peine à réagir fermement. Ses moyens de pression semblent limités. La victoire à l'élection présidentielle le 28 juillet dernier, revendiquée par Nicolas Maduro, est contestée par le candidat de l'opposition, Edmundo González, qui certifie avoir gagné avec 67% des voix. Malgré la répression, des milliers de Vénézuéliens ont manifesté à 3 reprises. Les États-Unis ont reconnu la victoire d'Urrutia. Un nouveau revirement de la part de Washington qui venait de rouvrir le dialogue avec Caracas dans l'espoir de remplacer une partie de l'or noir russe par du pétrole vénézuélien. Un sentiment d'impuissance face aux puissants protecteurs dont dispose Maduro, soutenu par l'Iran, la Chine et la Russie. L'immobilisme semble aussi résulter d'un épuisement des tentatives diplomatiques. Question : la solution peut-elle être régionale ? Le Brésil, la Colombie et le Mexique comptent parmi les pays clés pour résoudre la crise. Le reste de l'Amérique latine a été très critique. Le Chili a proposé l'exil au chef de l'opposition. Il est d'ailleurs parti en exil puisqu'il est en Espagne maintenant. L'Équateur et le Costa Rica ont reconnu la victoire de González Urrutia. L'Argentine est sans concession contre Maduro.
Oui. Comme tu viens de le dire, les ex-candidats sont partis en Espagne pour demander l'asile politique. Et nous allons entendre une chanson d'un Chilien, composée par un Chilien, chantée par Mercedes Sosa. On parle de l'exil.
Superficial cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió así como cambio yo en estas tierras lejanas.
Cambia, todo cambia. Même quand on se trouve dans des pays lointains. Et nous allons parler de façon positive maintenant d'une entreprise française qui s'est installée en Argentine, Béatrix, n'est-ce pas?
Oui, c'est le groupe minier Eramet, qui fait le pari du lithium argentin et ouvre une usine d'extraction du métal stratégique pour les batteries électriques. L'usine fait près de 30 hectares de superficie, mais elle paraît minuscule au milieu de l'immense plaine désertique de la Puna Salteña. Au loin, les sommets de la cordillère des Andes rendent le décor encore plus irréel et l'espace à perte de vue donnerait l'impression d'évoluer sur une autre planète. C'est dans le Salar, désert de sel, Centenario, situé à 3870 mètres d'altitude dans la province de Salta, que le groupe a inauguré son usine d'extraction directe de lithium. Le site industriel est situé dans le triangle du lithium en Amérique latine, entre Argentine, Bolivie et Chili, qui concentre à lui seul plus de 2/3 de ressources mondiales de cet or blanc, métal stratégique essentiel pour la fabrication de batteries électriques. Le début de la production de lithium à Centenario est attendu pour novembre. À partir de l'automne, elle devrait accueillir 350 employés. Preuve de son investissement dans le lithium sud-américain, le groupe a aussi acquis fin 2023 un vaste ensemble de concessions minières dans la région d'Atacama, au nord du Chili.
Mano el brazo en la basura, colgándome de un tallarín, champán, florcitas y billetes, con un dedito rescatar. Candombe de los cartoneros, se salva el que pesca primero, cargando la ciudad entera, desangrando su corazón. Pasan los bondis y los tacheros, los perros levantando la pata, un caño de escape, una bocina, orquesta filarmónica. Candombe de los cartoneros, se salva el que pesca primero, cargando la ciudad entera, desangrando su corazón. Florida, Corrientes, 9 de julio, pasando Córdoba y Santa Fe, vas hasta el bajo, silbando bajo, un par de tangos que te hagan soñar.
Candombe de los cartoneros. El cartonero, c'est des gens qui ramassent des choses dans les poubelles à Buenos Aires. C'est les pauvres, les très pauvres. Mais nous allons parler d'un autre sujet un peu curieux. Au Mexique, des nonnes qui s'occupent de l'élevage. Mais oui, c'est des nonnes qui s'occupent de l'élevage des Béatrix des. Des salamandres, non?
Des salamandres qui s'appellent Axolotis. À Pátzcuaro, à l'ouest du Mexique, des sœurs dominicaines élèvent des salamandres parées de vertus médicinales et menacées d'extinction. L'histoire fait toujours sourire les étrangers de passage et les habitants de la ville de Pátzcuaro, dans l'état de Michoacán, aiment la raconter. En plein cœur de leur centre historique et à quelques kilomètres des rives du lac Pátzcuaro, des religieuses dominicaines élèvent d'étranges animaux. Des amphibiens, mesurant maximum 30 cm, dotés de 4 pattes palmées, d'une nageoire dorsale et d'une queue. Ce sont des axolotis, qui disent que ce sont des monstres d'eau, aussi nommés ajolotes. On ne les trouve dans aucun autre pays du monde. Peu d'habitants ont pénétré dans le monastère des sœurs dominicaines. Mais si tout le monde sait ce qui se passe, ce qui s'y passe, c'est parce que les écoliers de Pátzcuaro, eux, sont régulièrement invités à suivre en silence dans les escaliers jusqu'à une grande fresque. Une peinture naïve représentant au fond le lac et au premier plan les aquariums de l'élevage des religieuses. Comment ces aqualotis se sont retrouvés dans un couvent datant de 1747 est une autre histoire. La production phare des dominicaines, en plus d'une liqueur de prunes et de broderie, est un sirop contre l'anémie et les problèmes respiratoires qui contient de l'axolotis. En pleine pandémie de Covid-19, le sirop a fait fureur et les acquéreurs faisaient la queue devant leurs portes.
Oui, on peut ajouter que Rodolfo Pérez Rodríguez est un doctorant qui est aujourd'hui professeur de biologie. Il continue d'assurer le suivi technique et scientifique de l'élevage. Et il nous indique qu'on a formé les religieuses et on continue à les conseiller dès qu'il y a un problème. Nous avons beaucoup appris avec elles, poursuit le spécialiste. On a utilisé leur axolotes, mais bien sûr, c'est les salamandres. Donc, pour nos laboratoires et qu'on a développé avec les pêcheurs, ça a vraiment été un travail gagnant. Voilà ce qu'on peut dire de ces élevages de salamandres au Mexique par les sœurs au Cuba, n'est-ce pas? Mais nous allons passer à la musique.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Notre émission, l'autre Amérique, touche à sa fin. Et merci à Béatrix qui nous a donné des infos sur ce continent. Et merci à Antoine. Nous vous donnons rendez-vous à la technique, Antoine. C'est bien ça. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Muchas gracias. Hasta pronto.
Darte los buenos días acostadita en tu cama.